Les voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. L'incendie du bazar de la Charité. Nous sommes le 4 mai 1897, rue Jean Goujon, dans le 8e arrondissement de Paris. C'est le jour de l'inauguration du bazar de la Charité, une vente de bienfaisance destinée aux nécessiteux, composée d'objets d'art, de tableaux, de bijoux et de toutes sortes de pièces provenant de dons. Au sein de cette association très mondaine, on trouve la duchesse d'Alençon, sœur de l'impératrice Sissi, Élisabeth d'Autriche, aux côtés de nombreux membres de l'aristocratie et de la bourgeoisie. Cette année, le bazar de la Charité a lieu dans un hangar de 80 mètres de long et de 13 mètres de large. Pour l'occasion, l'espace est configuré à la manière d'une rue du Moyen-Âge, avec, de part et d'autre, d'une allée centrale, 22 comptoirs agrémentés de décors en bois, en tissu ou en toile pour rappeler les anciennes échoppes. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs proposent aux invités un spectacle de cinématographe, sous un appentis de taille modeste, où l'on peut, pour 50 centimes, admirer les images animées des Frères Lumière qui seront diffusées par un appareil de 35 mm. Pour projeter une source lumineuse suffisamment importante, cet appareil utilise une lampe comportant un bâton de chaux porté à incandescence, 1500 degrés, et chauffé par la combustion de vapeur d'oxygène saturée en vapeur d'éther. Ce détail, on le verra, aura toute son importance dans le drame qui va suivre. Ce 4 mai 1897, rue Jean Goujon donc, plus de 1200 personnes issues de l'aristocratie ont été invitées. Vers 16h15, l'affluence est considérable. Les riches badauds flânent entre les échoppes, discutent au salon des dames, aménagé près de l'entrée du bâtiment, ou admirent les trois petits films des Frères Lumière dans le local du cinématographe. C'est alors que survient l'accident fatal. La lampe de projection de l'appareil a épuisé sa réserve d'éther et il faut la remplir. Le projectionniste demande à son assistant de lui donner de la lumière. Au lieu d'ouvrir le rideau en toile goudronnée qui sépare le mécanicien du public, celui-ci commet l'erreur de gratter une allumette. L'appareil étant mal isolé, les vapeurs d'éther s'embrasent. Le feu se propage instantanément aux décors tous inflammables, aux tentures, rubans et dentelles, et dévore le vélum goudronné qui sert de plafond au bâtiment. Des lambeaux enflammés retombent sur les visiteurs. Rapidement informés, les organisateurs commencent à faire évacuer les spectateurs, gagnés par la panique. Certains tombent, sans pouvoir se relever, piétinés par la foule qui tente de rejoindre les deux petites portes d'accès donnant sur la rue. L'une d'elles est rapidement bloquée par des corps. D'autres encore par un passage étroit, ramenant à la rue Jean Goujon, et celui-ci est lui aussi obstrué par des corps. Certains grimpent sur des échelles apposées sur le mur de l'imprimerie du journal La Croix, qui se dresse à l'arrière du hangar. Environ 150 personnes parviennent à s'extirper des flammes avec l'aide des cuisiniers de l'hôtel du Palais, situé à l'arrière du hangar, abritant le bazar de la Charité. 15 minutes après le début de l'embrasement, le bâtiment n'est plus qu'un amoncellement de poutres de bois calcinées, d'où émergent des cadavres horriblement mutilés et brûlés. Les pompiers de Paris, accourus de plusieurs centres de secours, se positionnent pour circonscrire l'incendie à l'aide de pompes à vapeur et de lances afin d'éviter sa propagation aux bâtiments voisins. Un service d'ambulance évacue les blessés réfugiés autour du bazar. Le commissaire de police le plus proche, prévenu par l'un des gardiens de la paix en faction à la porte du bazar, arrive peu avant l'écroulement final mais parvient à sauver quelques femmes. Il dirige ses hommes qui s'active à transporter les blessés. Vers 17h, le préfet de police, Louis Lépine, arrive sur place et fait aussitôt évacuer, grâce aux forces de police en place, la foule qui a envahi la rue Jean Goujon. Le reste de la journée et toute la nuit, pompiers, policiers, agents du génie et volontaires transportent les corps calcinés, 112 au total, au Palais de l'Industrie, pour permettre aux familles de les identifier grâce aux bijoux ou à tout autre détail connu des proches. C'est le début de l'odontologie médico-légale, un procédé d'identification des victimes, toujours en vigueur aujourd'hui, comme nous l'explique Norbert Fleury, technicien de police technique et scientifique à la police judiciaire de la préfecture de police.
C'est là qu'est née l'identification par les dents, l'odontologie médico-légale. Et malheureusement, lors d'un incendie, les corps sont difficilement identifiables. Et pour cela, on n'avait pas de technique à l'époque, hormis les vêtements, les bijoux, la reconnaissance visuelle. Et de là, on a eu l'idée, un consul du Paraguay a eu l'idée, de demander aux dentistes de plusieurs des victimes de venir examiner la dentition pour voir s'ils reconnaissaient leurs patients parmi eux.
Parmi tous les cadavres déplacés au palais de l'industrie figure la duchesse d'Alençon. Sa dépouille est identifiée par son dentiste, qui reconnaît ses dents et son bridge en or.
Évidemment, on cherche la duchesse d'Alençon, la fameuse sœur de Sissi impératrice. Alors pareil, il y a des témoignages, elle a été vue dans la loge ainsi, elle s'en est sortie. Et heureusement, il y a un consul du Paraguay qui va avoir l'idée de travailler avec les dentistes. Et il va se dire, justement, elle était suivie par un dentiste, il s'appelle Davenport. On va lui demander de venir et d'identifier sa cliente. Et de là, il va explorer la bouche de tous les cadavres qui sont là. Et ça va être évidemment quasiment le dernier cadavre, où là, en ouvrant la bouche, il va reconnaître son travail. Alors, il avait deux fiches cartonnées sur lesquelles il avait noté tous les travaux dentaires qu'il avait faits. Et en s'appuyant sur ces fiches-là, il va reconnaître son travail et il va identifier formellement la duchesse d'Alençon. Et tout ça sera adressé dans un procès verbal. C'est-à-dire qu'officiellement, il va le déclarer comme quoi c'est bien la duchesse d'Alençon qui va être identifiée.
Les victimes de l'incendie comportent une écrasante majorité de femmes. Outre le fait qu'elles étaient majoritairement présentes sur les lieux, il semble que le caractère contraignant de leur toilette de l'époque, composée d'un cerceau métallique et de trois jupons superposés, ne serait pas pour rien dans leur difficulté à fuir les flammes. Il se dit aussi, notamment dans la presse, que la plupart des hommes présents à la manifestation, faisant fi de la galanterie, se seraient tous précipités vers les sorties, en bousculant et en frappant des femmes à coups de canne pour se frayer un chemin. Le 8 mai 1897, une messe funèbre est célébrée à la cathédrale Notre-Dame de Paris en présence du président de la République, Félix Faure. Un an après la catastrophe, la première pierre d'une chapelle d'expiation, baptisée Notre-Dame de Consolation, est posée à l'emplacement du terrible incendie. Dédiée aux victimes, elle affiche en lettres d'or 125 noms sur 6 plaques de marbre noir. Propriété de l'association Mémorial du Bazar de la Charité, elle rassemble, aujourd'hui encore, des descendants des victimes et a été classée monument historique en 1982. Quant aux victimes qui n'ont pu être identifiées, la ville de Paris a fait élever en leur mémoire un monument, toujours entretenu par la ville, au cimetière du Père-Lachaise. L'incendie du bazar de la Charité, qui a servi de tragique leçon avec près de 130 victimes et 250 blessés graves, a donné naissance aux premières règles modernes de prévention contre les incendies dans les établissements recevant du public. Celles-ci concernent entre autres le nombre et la largeur des issues de secours, la résistance au feu des matériaux de construction, ou encore l'interdiction des liquides inflammables. Compte tenu de son immense retentissement, l'incendie a également inspiré de nombreux réalisateurs et écrivains depuis la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours, comme en témoigne la série télévisée diffusée en 2019 intitulée « Le bazar de la charité ».
Les voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police.